Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je reçois Michel Jasse. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Michel Jasse, vous êtes pasteur à la retraite.
Oui.
Vous avez été pasteur à Nîmes de 1992 à 2002.
Exactement.
J'ai lu ça récemment. Et donc, vous vivez à Nîmes et vous êtes aussi animateur pour notre radio, Radio Alliance Plus, pour l'émission Théologie en liberté. Alors, je suis heureuse de vous retrouver, puisque
nous saluons
ici ou là. Et nous avons eu envie de parler de la Réformation, parce que c'est bientôt la fête de la Réformation, qui est le 31 octobre cette année. Donc, ça tombe un vendredi, mais dimanche prochain, 26 octobre, au Temple de l'Oratoire, ce sera un culte un peu spécial autour de la Réformation. Donc, j'ai eu envie de vous interroger, Michel Jasse, sur qu'est-ce que c'est la Réformation, à partir de la Réforme, évidemment, et que vous nous expliquiez les origines de la Réforme et puis l'histoire, comment ça s'est passé.
Et comment
transformation un peu.
Comment on peut le vivre aujourd'hui aussi.
Voilà, et le vivre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, pourquoi on fête encore cette fête de la Réformation d'ailleurs.
Oui.
Voilà, tout ça ensemble. Donc, nous commençons. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment tout ça a débuté?
Voilà.
À partir de quoi?
Donc il y a la réforme et puis la réformation, c'est-à-dire que c'est le mouvement un peu dans la durée. Mais la réforme, ça est daté avec l'affichage par Martin Luther des 95 thèses sur la chapelle de Wittenberg. Et en fait, ça marque une position positive, l'esprit nouveau qui veut, dans le christianisme, affirmer une sortie de ce qui était compris comme les abus de l'Église médiévale. Alors en fait, ça a été le 31 octobre 1517. En général, c'est fêté ou le dimanche avant ou le dimanche après, dans les cultes protestants. Et en fait, ça a été célébré pour la première fois l'année d'après, enfin le siècle d'après, en 1617, c'est le prince électeur du Palatinat qui a voulu marquer cet anniversaire. Alors la chose un peu bizarre, c'est que ça a été plutôt conservé chez les luthériens, c'est plutôt les luthériens qui vont parler de cet épisode avec Martin Luther, le réformateur. Mais le prince électeur du Palatinat était à l'époque, en 1617, il était calviniste. Mais enfin, c'est plutôt une fête luthérienne, et aujourd'hui, où il y a une église unie, une communion entre les réformés et les luthériens, les réformés prennent un peu des habitudes un peu luthériennes.
Eh ben, c'est pas mal, c'est pas mal de se rappeler quand même de Martin Luther, qui était un homme un peu fameux quand même dans notre histoire protestante. Ouais. Alors, un peu comment ça s'est passé et pourquoi Martin Luther a voulu afficher ses 95 thèses donc,
Oui, alors dans l'origine de la réforme, on pourrait dire, en fait, il y a l'élément social. Et alors là, il y avait un peu un éloignement des populations germaniques de Rome. Et puis linguistiquement, enfin, on était les Allemands, les Suédois, les Danois avaient plus de difficultés à comprendre le latin, alors que dans le sud, en Espagne ou en Italie ou en la France du Midi, Occitane, eh bien, on comprenait un peu plus facilement le latin. Donc c'était moins urgent de vouloir traduire les textes en langue vernaculaire. Donc il y a un élément théologique et un élément social. En fait, à la réforme, il va y avoir toutes sortes de remises en question de la pratique médiévale. Alors, on le trouve, par exemple, déjà dans notre région, à la fin du XIVe siècle, on avait la révolte des Tuchins, qui a été au Massif central, mais très présente le long du Gardon et de la Cèze. Les Tuchins, c'était des petits féodaux, des petits bourgeois, des paysans, qui vont se révolter contre le système féodal. Alors, ils ont été travaillés plutôt par les marxistes, d'un point de vue un peu social. Ça fait partie d'une des révolutions qui annonce la révolution de 17 en Russie. Mais en fait, il y avait un élément aussi religieux. Les Tuchins, alors c'est quand même assez curieux, faisaient des célébrations où ils lisaient la Bible. Il n'y avait pas encore l'imprimerie. Donc il y a une révolte politico-religieuse qui existait. Il y a eu aussi, on parle de la guerre des paysans à l'époque de Luther en Allemagne, mais il y a eu des sortes de guerres de paysans dans l'Europe du Sud, et ça a été pas assez souligné, mais c'est un professeur de Montpellier, Serge Brunet, qui dit qu'il faut aussi voir pour les Pyrénées, pour le Massif central, une sorte de révolte contre le système féodal. Et alors il y a eu, c'est une réforme qui est pas théologique, qui est plutôt guerrière et un peu de liée à la rapine, à la destruction des églises, un peu révolutionnaire, donc un mélange de révolution, et qui va déconsidérer un peu la réforme. Par exemple, en Cerdagne, là où il y a des pistes de ski aujourd'hui, dans les Pyrénées, eh bien, il y avait des petits féodaux qui étaient là-haut et ils descendaient pour voler les gens qui passaient de Montpellier à Toulouse. Et en fait, les gens avaient très peur de cette révolte. Et cette révolte va s'additionner à la contestation religieuse. Alors, ce n'est pas la même chose, mais d'un point de vue catholique, on va confondre les deux mouvements, le mouvement théologique qui veut lire la Bible et puis le mouvement révolutionnaire qui veut lutter contre les abus sociaux ou ecclésiastiques.
Il y avait donc un désir de justice.
Oui.
De justice sociale, mais aussi de justice religieuse,
oui.
Puisqu'il y avait des abus au niveau du pouvoir du Vatican, des papes à ce moment-là, etc., de toute l'Église catholique,
oui.
Puisqu'on demandait beaucoup aux pauvres petits paroissiens.
Oui, il y a eu le refus des dîmes. Les gens en avaient marre de payer, alors que le clergé vivait des façons un peu avec une richesse énorme, etc. Il y a eu un peu une révolte. Et par exemple, en 1561, aux États généraux du Languedoc, qui s'est réuni à Béziers, en 1561, il y a eu un juriste de Toulouse, Claude Terlon, qui avait demandé la restitution des biens du clergé. On se croit à la Révolution française, mais c'est au XVIe siècle. Et il avait demandé, et en même temps, Claude Terlon faisait partie des premiers protestants de la région Toulouse-Montauban. Quoi. Et en fait, mais là, il demandait, et en fait, c'était le souvenir aussi que le clergé avait récupéré énormément de terres. Et il y avait des seigneuries ecclésiastiques. Bon, Uzès, c'était une seigneurie ecclésiastique, tout le diocèse d'Uzès, c'était important, c'était lui l'évêque qui dirigeait. Alors donc il y a eu un peu une remise en question de cela. Et puis on peut dire c'est Gutenberg qui fait la réforme avant Luther. S'il n'y avait pas l'imprimerie, il n'y aurait pas eu Luther. C'est-à-dire qu'en fait on pouvait imprimer et les gens pouvaient posséder une Bible.
Pour les auditeurs peut-être qui connaîtraient moins l'histoire protestante que nous ou que certains protestants par ici, il faut peut-être dire un peu qui est Martin Luther quand même, parce que au départ, il n'était pas protestant. Hein. Qu'est-ce qu'il était au départ?
Calvin et Luther ont tous les deux été baptisés dans l'Église catholique.
Voilà.
Ouais, mais en fait, donc, c'était un moine allemand.
Ouais.
Et en fait, il cherchait, c'était comme une sorte de mystique, influencé par le courant franciscain, etc. Et il voulait chercher une sorte de paix avec Dieu. Et puis, il lisait énormément la Bible, il lisait les pères de l'Église, il cherchait. Et en fait, il y a eu comme un déclic, c'est le salut par la foi de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas notre foi qui nous sauve, parce que ça a été mal compris par les protestants. C'est qu'après, il y a eu l'orgueil de la minorité protestante qui dit, nous, on a bien compris, alors que vous, les catholiques, vous avez mal compris. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas notre foi qui nous sauve, c'est Dieu qui est le sujet de la foi dans la Bible, et Jésus-Christ qui nous sauve, et c'est gratuit. Et ça a été un peu la découverte spirituelle de Luther. Et puis quand il a voulu l'annoncer, à partir d'un certain moment, l'Église catholique a dit « non, vous allez trop loin ». Et c'est là où il a affiché les 92 thèses.
Et une lutte donc, et une lutte. Et pour parler de Luther... il y a quand même il a annoncé sa foi donc avec beaucoup de ferveur et de courage face à l'adversité.
Oui.
Et
avec ça a été très compliqué parce que lui il a eu une position on pourrait dire novatrice avec la réforme. Il a voulu qu'on ait une messe en allemand, pour que les gens puissent comprendre, que les gens puissent se référer à la Bible, qu'on puisse communier avec les deux espèces, etc. Mais comme il y avait cette révolte sociale, avec la guerre des paysans, donc des révolutionnaires, il y a un moment, il a été conservateur. Il a dit non, il a préféré être du côté des seigneurs plutôt que donner le pouvoir complètement à la base. Et en fait, alors qu'il a eu une position un peu ambiguë au moment, il a dit même « remettez la messe en latin, remettez les cierges, remettez les habits sacerdotaux, etc. » Parce qu'il ne voulait pas que la réforme soit uniquement révolutionnaire, et puis après on stoppe la révolution, puis on oublie complètement la...
C'est ça.
Donc
ouais.
Il a voulu quand même trouver un compromis, et en même temps... voilà. Et Calvin, ça a été un peu pareil, parce que Calvin aussi, il était quand il est arrivé en Suisse, il y a eu beaucoup d'anabaptistes, des partisans de la réforme radicale, et qui risquaient de polluer complètement ce mouvement de réforme.
Donc il a écrit aussi... Martin Luther. J'ai sous les yeux la confession de foi de Luther. Est-ce que ça vous intéresse que, je la lise,
oui,
Michel
oui.
Jasse? je l'ai sous les yeux. Elle est un petit peu longue, on va quand même...
Oui.
Je vais essayer de la lire parce que c'est important quand même, parce qu'il a été vraiment quand même au démarrage de quelque chose qui a été, oui, une révolution, mais une révolution aussi intérieure.
Oui.
C'est une révolution pour soi-même, pour sa vie de foi. Alors, je vous lis ça, et puis on continuera à parler de la réforme, de ce qu'elle a apporté. « Je crois que Dieu m'a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège de tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal, tout cela sans que j'en sois digne par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin, par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle comme lui-même, qui ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement.
Et en fait, donc, Luther était vraiment aussi, c'était un courant un peu d'un renouveau spirituel. Il était dans le courant plutôt franciscain, qui était contre les gens qui faisaient qui avaient le pouvoir de Rome, qui faisaient le commerce des indulgences, c'est-à-dire qu'avec pour pardonner un péché, on devait donner de l'argent, etc. C'était plutôt les dominicains. Et il y avait la lutte, il y a toujours eu la rivalité entre les dominicains et les franciscains. Et lui, Luther, même quand la réforme progressait, il disait c'est Aristote recule, c'est-à-dire les dominicains, ils reculent. Et voilà. Mais en fait, il y a quand même tout un mouvement spirituel. À l'intérieur, il ne pensait pas faire un schisme. Il pensait que c'était l'Église catholique qui allait se réformer, avec un peu comme le mot réforme existait dans les ordres religieux de l'époque, puisqu'on passait un ordre religieux se réformer, c'est-à-dire se rapprocher de la Bible, retrouver les fondements, et le mouvement pouvait continuer. Et d'ailleurs, on peut dire que la réforme, par exemple, dans les pays scandinaves ou Suède, Norvège, Danemark, etc., ils n'ont pas vu passer tellement la réforme. C'était évident qu'on avait traduit avec l'imprimerie, on avait traduit la Bible en allemand ou en danois ou en suédois. Et en fait, donc c'était naturel. Et la même église qui était au centre du village au Moyen-Âge pouvait devenir protestante, on ne voyait pas trop la différence. Alors c'est plutôt dans l'Europe du Sud où alors les protestants vont être vus comme des hérétiques, ils vont être pourchassés. Et là, ça va être une vision un peu, on va dire, les protestants, c'est des schismatiques.
Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale. On est un peu dans le contexte de cette naissance de la réforme, de la réformation et de l'Église protestante en tant que telle. qui va après émerger. Et donc, vous nous avez proposé, Michel Jaz, d'écouter « C'est un rempart que notre
voilà,
Dieu ».
Le cantique de Luther.
Voilà, cantique de Luther, c'est approprié. Alors nous l'écoutons, puis nous revenons juste après ensemble pour continuer cette émission. Vous êtes sur le 103.2, vous nous écoutez sur radioallianceplus.fr, soit en podcast, soit en DAB+. Et voilà, nous sommes ensemble avec Michel Jaz, qui est pasteur à la retraite à Nîmes et qui est aussi animateur pour Théologie en Liberté sur cette radio que vous écoutez. Alors, nous étions en train de parler de la réforme et à propos de cette fête de la réformation qui est le 31 octobre. Qu'est-ce qu'on peut dire des principales transformations ? Vous nous en avez un peu parlé par oui. La lecture de la Bible, par le fait qu'il y a eu une révolution sociale aussi, oui. etc. Quels seraient les fondements, disons, qui ont été un peu mis en place ?
Oui. Alors, j'ai un de mes amis qui a été professeur de théologie. Donc il y a le premier défaut, c'est être pasteur, puis après, le deuxième défaut, c'est être professeur de théologie. Non, mais enfin, il a beaucoup d'intuition, et en fait, il a voulu présenter le protestantisme en disant ce qui nous différencie le protestantisme du catholicisme, c'est un homme, une femme, une chose. Donc un homme, bon, on le comprend, c'est le pape. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les protestants vont haïr un frère en Jésus-Christ et qui est évêque à Rome, etc. Il y a eu des papes qui étaient des dictateurs pénibles et tout, mais d'autres, ceux des chrétiens, très sympas. Et puis, bon, il y a des papes comme le pape François, celui qui vient de décéder, a été bien apprécié par les protestants. Mais ce qui différencie les protestants et les catholiques, c'est la structure pyramidale. C'est-à-dire que le pape soit au-dessus des évêques, soit en haut d'une sorte de roi, d'empereur, au-dessus de la hiérarchie. Et en fait, on a une vision moins pyramidale, une vision avec des conseils presbytéraux. Alors même, quelquefois, il y a des protestants qui ont des évêques, mais les évêques sont élus. Et il n'y en a pas un qui domine les autres. Il y a une certaine égalité. Donc, un homme, une femme, c'est Marie. Alors, ça ne veut pas dire que les protestants ne croient pas en la mère de Jésus. Marie était la mère de Jésus. Même il y a des protestants un peu littéralistes et qui, grâce à l'évangile de Luc, vont dire « Oui, mais il y a eu une naissance miraculeuse, etc. » Alors, les autres protestants diront « Non, mais il faut pas prendre les choses à la lettre, parce que les autres textes n'en parlent pas, etc. » Mais Marie devient même presque le symbole de l'Église, puisqu'elle a porté le Christ. Et bien, dans un sens, c'est comme nous, en tant qu'Église, en tant que groupe, on doit porter le Christ à notre prochain. Donc, mais ce qu'on refuse, les protestants, c'est les cultes secondaires. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait des Pyrénées tout à l'heure, mais dans les Pyrénées, il y a les Vierges Noires. Et alors, en fait, c'est peut-être des objets païens qui ont été conservés dans le christianisme, et puis que le bois est devenu très noir parce qu'il a été très, très vieux et touché par l'oxygène, etc. En fait, et où parlaient les fumées des cierges. En fait, ce que les protestants refusent, ce sont les cultes secondaires. Donc, tous les saints du paradis, il y en a même certains qui n'ont pas existé, puis on a construit des églises en leur honneur, etc. Donc, il y a une contestation de toute cette spiritualité qui est devenue très complexe parce que la chrétienté a dominé toute l'Europe et a récupéré même des cultes païens. Voilà, alors donc, un homme, une femme et une chose. Alors la chose, c'est la matérialité des sacrements. C'est-à-dire que le protestant va essayer de voir plutôt l'aspect spirituel. C'est-à-dire que même si quelqu'un ne communie pas, ben, il peut être en communion avec le Seigneur, même s'il n'a pas appris l'hostie ou le pain, le vin. Si quelqu'un... n'a pas été baptisé par ses parents, il devrait recevoir le baptême pour être chrétien, mais il n'a pas envie, il n'ose pas parce qu'il est timide. Moi, j'ai connu une personne âgée dans la paroisse de Nîmes, mais qui est morte depuis longtemps, et qui m'avait expliqué que ses parents, qui étaient des commerçants des Halles de Nîmes, elle ne lui avait pas donné le baptême et elle n'osait pas dire. C'était la seule dans sa promotion. À l'époque, il y avait des promotions de 40 catéchumènes et elle n'osait pas dire. Elle avait dit au pasteur, mais je n'ai pas été baptisé, mais je veux faire ma confirmation, mais je ne veux pas être baptisé. Et le pasteur avait dit, elle a compris qu'elle était... sinon, elle aurait eu un refus. Elle ne voulait pas faire la cérémonie parce qu'elle ne voulait pas être... que le projecteur soit uniquement sur elle. Elle était trop timide, elle est du milieu populaire, etc. Et elle a dit, je veux faire ma confirmation parce que je crois en Jésus-Christ, je prie, je lis la Bible, mais je ne veux pas recevoir le baptême parce que je ne veux pas être mise en exergue. Et le pasteur lui avait dit, c'est Paul Brunel, il y a la rue Paul Brunel devant le cimetière protestant en route d'Alès, ouais. Et Paul Brunel lui avait dit, eh bien oui, tu feras ta confirmation même si tu n'as pas été baptisé. Et parce que ça correspond à l'esprit de Jésus, de ne pas regarder d'abord les rites, les obligations. Donc le protestant, il va une chose, c'est-à-dire qu'il y a une différence quand même. Le catholique va insister sur la valeur du sacrement. Le protestant va dire, on va essayer de voir l'aspect spirituel. Mais alors c'est compliqué parce que le protestant remet beaucoup de choses en question. On peut aller très loin dans cette remise en question.
On va peut-être pas avoir le temps de tout voir, mais en tout cas c'est bien de voir ce qui a été mis en place et qui a été vraiment différent,
oui.
Et ce qui a fait d'ailleurs, qui a choqué
oui.
À l'époque, ça choque moi maintenant parce qu'on est rentré, on est en lien avec nos amis catholiques. Et donc, ces fondements, aujourd'hui, si on regarde la réforme ou la fête de la réformation aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui est important de fêter, entre guillemets, disons, par rapport à la réforme, là, si on se situe aujourd'hui, en 2025, là.
Oui. Mais c'est-à-dire que, par exemple, le protestant, on pourrait imaginer, si on était catholique, on va faire la fête de la réformation, on se déguiserait en Luther, on ferait des animations en collant dans les temples les thèses de Luther, etc., etc. Non, on ne le fait pas. Donc c'est une mention, plutôt, on sait qu'on est chrétien, comme les autres, on veut être chrétien un peu plus biblique, etc. Et en fait, on sait aussi, puisqu'on est protestant du Midi, on est à Nîmes, et qu'en fait... il y a la réforme luthérienne, il y a un contexte qui n'est pas le nôtre, qui est le nord de l'Europe, puis il y a la réforme calvinienne avec Calvin qui était de Noyon, qui était allé à Strasbourg, puis après il était allé à Genève. Et puis cette réforme qui va influencer le Midi, les Cévennes, c'est plutôt la réforme calvinienne. Et puis il y a une troisième réforme pour nous, c'est celle qui vient de l'expérience de la clandestinité. C'est-à-dire que les protestants vont en France, ils vont être interdits de culte avec la révocation de l'édit de Nantes et ils vont vivre un peu... Et alors donc on pourrait dire que c'est une réforme qui est faite non pas par un réformateur, mais par le mal, la persécution, Louis XIV, Louis XV, et en fait que Dieu a le mal que Dieu a transformé en bien, c'est-à-dire une expérience qui nous permet d'être en solidarité avec les peuples persécutés, etc. Alors c'est cette réforme, ou alors ça va être avec les Lumières, mais l'esprit des Lumières, ça vient aussi de la remise en question du monde ancien, avec le traité de Westphalie, vous voyez, après la guerre de 30 ans qui a déchiré toute l'Europe, eh bien, il y a un traité et qui annonce une sorte de révolution puritaine qui va faire après la révolution américaine et la révolution française. C'est-à-dire l'esprit des Lumières. L'esprit des Lumières. Et ça, c'est un peu, on pourrait dire que les protestants sont ouverts à... ils ne prennent pas à la lettre, finalement, ce que Luther ou Calvin ont vécu, mais sont dans ce mouvement. C'est une... La réforme, c'est à venir. La vraie réforme, c'est Jésus-Christ, c'est l'au-delà, c'est la perfection, mais qui n'est pas de ce monde.
Voilà. Donc, je crois que c'est ce qui est peut-être utile de rappeler, c'est que c'est quelque chose qui est de l'ordre du vécu et que chacun, oui. Donc chacun peut s'approprier,
oui.
Donc à sa façon.
À sa façon.
Nous, on a notre façon oui. protestante, on y tient.
Oui, mais il n'y a pas une seule façon protestante.
Non plus.
On peut être, voilà.
C'est très multiple aussi chez les protestants.
Près de Méruès, moi j'ai entendu cette histoire d'un hameau près de Méruès et ils étaient restés catholiques quand la réforme avait influencé toutes les Cévennes. Eh bien, eux, ils étaient restés catholiques et au XVIIe siècle, ils ont voulu devenir protestants. Et ils sont presque devenus, ils ont dit oui à la Bible, oui à tout ce que je veux dire, l'homme, la femme, la chose, etc. Enfin, ils sont devenus le salut par la foi. Ils ont, d'accord. Et simplement, ils ont dit à la fin, mais est-ce qu'on peut garder le signe de croix? Et puis les autres, au synode, ils ont dit, ah non, on est protestants, on ne fait pas le signe de croix. Ben, alors, ils ont dit, bon, si c'est comme ça, on reste catholique.
Donc le signe peut... de croix, ça peut être un très beau signe si,
mais
on,
oui, mais,
si
ben,
on est bien, si on y croit. Justement.
Oui, mais dans les synodes de l'époque, non.
Voilà. Donc voilà, on a fait un petit tour, messieurs et mesdames les auditeurs, au sujet de la réforme. Alors c'est un peu court encore parce qu'après il y a eu d'autres réformateurs. C'est une longue histoire,
hein, oui,
c'est
oui,
une
oui.
longue histoire qui nous tient à cœur. En plus dans cette région des Cévennes et tout. Mais voilà, encore aujourd'hui on peut être réformé
oui.
aujourd'hui, voilà, par Jésus-Christ. On va peut-être en rester là, Michel Chasse.
Ben oui.
Ou est-ce qu'il y a une dernière petite chose qui vous tient à cœur,
non,
très rapide?
Radio Alliance Plus, c'est-à-dire que la diversité aussi de nos émissions
oui.
et notre réflexion qui est avec cette radio et à côté.
Voilà. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs d'une autre façon, une autre fois. Merci pour votre présence, Michel Chasse.
Merci à vous.
Bonne suite à vous. Et puis à vous aussi, chers amis auditeurs, à la semaine prochaine.